La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
Il est 7h14, les voix de l'économie. Bonjour Bertrand Martineau.
Bonjour.
Vous êtes expert associé à l'Institut Montaigne, spécialiste du travail et des questions sociales. Bienvenue sur Radio Classique. Alors il n'y a à 7h pas d'accord entre le patronat et les syndicats sur l'emploi des seniors. Ils doivent se retrouver ce matin alors que la séance d'hier devait être la dernière. Qu'est-ce qui bloque ?
Alors, il bloque un certain nombre de points plutôt techniques. Hein. On est sur un accord quand même globalement assez technique. Il y a des points, je comprends, qui bloquent sur le fameux CDI senior, enfin qui s'appellerait pas comme ça, puisqu'il y a les organisations syndicales ont plutôt des problèmes de principe hein, avec le CDI senior. Et puis il y a une proposition patronale qui vise à ce que le successeur du, enfin que les mécanismes de transition professionnelle aujourd'hui, ça s'appelle le PTP, le parcours de transition professionnel, donne lieu à une rupture du contrat de travail, alors qu'aujourd'hui, il y a un droit au retour. Voilà, c'est ce genre de choses très techniques qui sont en discussion, apparemment.
Mais c'est le sujet qu'on peut régler ou qui pourrait amener à un blocage in fine ?
Alors, le fait qu'ils n'aient pas réussi à conclure cette nuit ne veut pas dire qu'ils vont pas conclure. En fait, les différents partenaires autour de la table, la partie patronale et la partie syndicale, ont intérêt à conclure, en fait, puisque sinon, comme vous le savez, c'est l'État qui, comme on dit, c'est la fameuse formule consacrée, reprendra la main. Cela dit, l'État peut aussi reprendre la main s'il n'est pas satisfait du contenu de l'accord, bien entendu. Mais enfin, en tout cas, l'intérêt des deux parties est de conclure, j'allais dire quoi qu'il en coûte.
Les deux parties, oui, patronat et syndicat.
Oui, exactement. Ouais. Ils ont intérêt à conclure. Bon, maintenant, peut-être que les divergences seront trop fortes, mais ils ont quand même intérêt à conclure.
C'est pour ça qu'on en parle ce matin, et c'est pour ça que c'est important. C'est parce qu'en fait, se joue là ce matin l'avenir de ce qu'on appelle le paritarisme. Pourquoi est-ce que eux, côté syndicat patronat, veulent, question totalement naïve, mais volontairement, veulent défendre ce paritarisme ?
Et un peu pour des raisons de principe. Alors il y a une spécificité française. Hein, normalement, dans la plupart des pays, le dialogue social se fait exclusivement au niveau des entreprises et des branches professionnelles. Et généralement, d'ailleurs, les partenaires sociaux ne négocient pas sur l'assurance chômage, ne négocient pas sur les retraites. Voilà. En France, c'est vrai qu'il y a cette tradition qui remonte aux années 70, hein, à l'époque où il y avait beaucoup de grains à moudre, c'est-à-dire il y avait beaucoup de gains de productivité, il y avait une question de partage des fruits de la croissance.
Qu'est-ce qu'on allait en faire ?
Et évidemment, depuis qu'il y a, on a une productivité qui est en berne, et donc il y a moins de choses à se partager. Et donc évidemment, le paritarisme au niveau interprofessionnel, donc le dialogue social au niveau interprofessionnel, est forcément affaibli, en fait. C'est pas pour des raisons politiques ou idéologiques. C'est plutôt qu'il y a peu de choses, il y a peu de grains à moudre. C'est au niveau de l'entreprise, essentiellement, qu'il y a du grain à moudre. C'est-à-dire, quand vous avez une entreprise qui fait des profits, vous pouvez négocier sur du temps de travail, sur des augmentations de salaire, vous pouvez faire des deals intéressants. Au niveau interpro, évidemment, c'est beaucoup plus difficile.
C'est d'ailleurs un peu la thèse d'Emmanuel Macron, hein, de privilégier le dialogue social au niveau uniquement des entreprises. Et du côté du gouvernement, pourquoi lui cherche à reprendre la main, pour reprendre effectivement cette expression. Est-ce que c'est avant tout des préoccupations financières, comme on peut l'entendre ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un magot du côté de l'UNEDIC ? Je rappelle que le régime a 60 milliards de dettes, mais il a pu connaître des excédents ces derniers temps.
Alors, le régime de l'UNEDIC, il est puissamment excédentaire, donc c'est pas le sujet qu'il est mal géré ou qu'il y aurait pas assez de recettes. Le problème, c'est pas l'UNEDIC, enfin c'est pas l'assurance chômage pris isolément. En fait, c'est l'ensemble des finances publiques. Et donc oui, l'État a un problème de redressement global des finances publiques, et ça passe par des redressements dans tous les domaines, y compris sur les caisses qui sont excédentaires. Oui. Je rappelle qu'on avait, on a le même sujet sur les retraites. Les retraites, le régime de retraite était globalement excédentaire, et si on le réforme, c'était pas pour le régime de retraite, en fait, c'est pour contribuer au redressement global des finances publiques. Parce qu'en fait, on peut pas séparer les choses et raisonner en silo, c'est ça qui est pas toujours facile à comprendre.
Bien sûr, et ce qui est délicat, c'est qu'effectivement, le gouvernement, dans ce même timing, a dévoilé une partie de son jeu la semaine dernière, avec une demande, quelque part, de nouvelles négociations, avant même que celle en cours soit finie, de nouvelles négociations pour redurcir encore l'assurance chômage, réduire la durée d'indemnisation, et puis d'autres pistes.
Alors, oui, justement, là...
Quel est le sens de tout ça ?
Alors, la négociation actuelle, là, dont on parle de cette nuit, ne porte pas sur l'assurance chômage, hein, comme vous l'avez rappelé. Donc, le gouvernement, effectivement, va demander aux partenaires sociaux de revoir la copie sur l'assurance chômage, après un premier accord un peu à minima climat qui avait été fait au mois de novembre. Et là, le gouvernement va exiger un certain nombre d'économies. Et là, les chances d'arriver à un accord entre partenaires sociaux sont probablement nulles, puisque on ne peut pas demander aux syndicats de négocier sur des baisses de droits d'assurance chômage. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible. Les syndicats sont pas là pour ça. Donc, si le gouvernement veut faire des économies sur l'assurance chômage, bah, il doit le faire lui-même.
Et de fait, il peut prendre un décret,
bien
et forcer
sûr.
La main directement au...
Tout à fait. Aujourd'hui, la loi et la réglementation permettent au gouvernement, c'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis plusieurs années, hein. Il a repris la main sur l'assurance chômage et c'est lui qui, par décret, détermine maintenant les paramètres de l'assurance chômage.
Alors, Gabriel Attal dit, mon objectif, ça n'est pas de me prendre à tel individu ou au chômeur, c'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi. Est-ce qu'il y a stigmatisation, caricature des chômeurs dans le projet du gouvernement?
Non, enfin, il s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître que effectivement les durées d'assurance chômage ont un impact sur l'intensité de la recherche de travail et la rapidité de retour au travail. C'est pas une question de stigmatisation. Alors après, on peut discuter du quantum, c'est-à-dire quelle est la bonne durée d'indemnisation, etc. Et on va pas dire que la théorie économique de ce point de vue-là soit particulièrement précise. Mais c'est sûr que une assurance chômage de durée relativement courte associée à un accompagnement renforcé, en tout cas de certains chômeurs, est probablement la voie qu'il faut emprunter, comme on fait tous les pays d'Europe. Maintenant, encore une fois, on peut discuter de ce qu'est la durée optimale.
Oui. Bertrand Martineau, le fait qu'on n'ait pas de recul ou peu de recul sur les précédentes réformes de l'assurance chômage, est-ce que ça devrait totalement empêcher de réformer à nouveau ?
Bah, en théorie, il est de bonne politique de faire une évaluation et d'en tenir compte. Malheureusement,
on peut estimer qu'on n'est pas allé assez loin.
C'est pas l'évaluation des politiques publiques qui caractérise notre pays, le fonctionnement des pouvoirs publics. Et quand des évaluations sont faites, d'ailleurs, on n'en tire pas forcément les conclusions. Bah, oui. La Cour des comptes passe son temps à faire des évaluations de politique publique et on n'en prend pas systématiquement, on prend pas systématiquement en compte. Il y a une situation d'urgence des finances publiques, donc on peut comprendre que l'État veuille y aller sabre au clair. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parlerait que d'assurance chômage ? Il y a bien d'autres endroits aussi où on peut faire des économies, oui. Dans le domaine de la santé, dans le domaine, bien entendu, du logement. Probablement dans le domaine des retraites aussi, le niveau des retraites, la question de l'indexation des retraites. Et à chaque fois, là, on parle de quelques milliards. Hein, on n'est pas dans l'épaisseur du trait. Donc je pense que dans un monde idéal, et on n'est pas dans un monde idéal, il faudrait arriver à un consensus minimal sur la question des finances publiques en général et pas s'attaquer au sujet petit bout par petit bout.
Dernière chose, il y a la question du CETU, le compte épargne-temps universel, une promesse à l'origine d'Emmanuel Macron, une idée chère à la CFDT. Le sujet a été reporté, est-ce qu'il peut voir le jour alors que MEDEF et CPME sont archi contre ?
Alors, c'est essentiellement au niveau des partenaires sociaux, c'est essentiellement porté par la CFDT.
Mais l'UDP, qui représente donc les artisans, les commerçants, a ouvert la porte.
Oui, tout à fait. Bon, en pensant sans doute que c'est les grandes entreprises qui vont payer. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à une urgence sociale.
Oui. L'urgence
sociale aujourd'hui, c'est quand même la question du pouvoir d'achat la question du CETU, puisqu'on en parle. Donc, il a été retiré de l'accord. Là, il figure pas dans les projets d'accord. C'est d'attribuer un compte épargne-temps à tout le monde. Bon, en partant du principe qu'aujourd'hui, les comptes épargne-temps qui sont des dispositifs d'entreprise concernent essentiellement les grandes entreprises et surtout les cadres. Le problème, c'est que la grande majorité des salariés français n'auraient rien à déposer sur un compte épargne-temps, qu'il soit universel ou qu'il ne soit pas universel. Aujourd'hui, beaucoup de... Et quand ils ont des heures supplémentaires ou des jours d'RTT, ce qu'ils veulent, c'est absolument les monétiser. L'urgence, c'est quand même un problème de pouvoir d'achat. Donc l'idée qu'il y aurait des millions de personnes qui seraient prêtes à renoncer à des heures supplémentaires pour les monétiser, pour éventuellement les transférer d'entreprise à entreprise pendant des années, est une idée quand même relativement utopique. Aujourd'hui, la question, c'est plutôt les fins de mois. C'est pas d'accumuler du temps pour, dans quelques années, prendre un congé sabbatique. En tout cas, pour les travailleurs peu qualifiés et à bas salaire, c'est vraiment pas l'urgence sociale du moment.
Bertrand Martineau, merci beaucoup, expert associé à l'Institut Montaigne.
Merci.
Invité en direct des Voix de l'économie ce matin sur Radio Classique.